la salle est comble, je le sais. Donc, inutile pour les gens de m'écrire, de dire, je voudrais avoir une place à la dernière minute. La salle est pleine. Et c'est le fun parce que demain, on annonce un week-end tout à fait extraordinaire, tant à Montréal qu'à Québec. Donc, le trajet Montréal-Québec se fera sous le soleil. Je suis bien content de ça.
Ce sera une belle fin de semaine. Je ne sais pas si tu passes la fin de semaine à Québec, mais ce sera magnifique, effectivement.
Ben, je passe en fait toute la journée de demain. Hein. J'arrive tôt en journée pour faire les préparatifs. Et ensuite, je repars le dimanche. Passer quelques heures à Québec. J'aime beaucoup la ville de Québec. J'aime moins la circulation. Mais comme c'est souvent c'est le même problème à Montréal aussi. Là, je veux dire, les problèmes de circulation sont criants. Puis évidemment, personne n'apprécie se retrouver 2 heures dans la circulation, dans des bouchons.
Non.
Fait que, bon, c'est pour ça que, bon, en arrivant samedi vers l'heure du midi à peu près, là, donc on est moins dans les heures de pointe de la semaine. Donc ça devrait bien se faire.
J'espère. Il y a un truc en fait que tu dois noter, c'est que le pont de Québec, le vieux pont, est fermé pour le week-end. Donc ça se peut que ça congestionne un peu sur la porte si jamais tu passes par la rive sud.
Oui, je passe par le pont Pierre-Laporte.
Alors, il y a peut-être à ce moment-là que ce sera plus compliqué.
OK, merci de me l'avoir, de l'avoir souligné.
C'est notre réalité ici.
Montréal, écoute, c'est toujours ça, les ponts. Quelle idée de construire avec des ponts, là. C'est toujours, c'est épouvantable.
C'est des aéroglisseurs que ça prendrait. Mais bon,
ouais, c'est exact. Mais ou un troisième lien. N'entrons pas dans ce débat-là.
On en a pour plusieurs minutes et on n'a pas ce temps-là, malheureusement.
Non, exact.
Ce soir, la thématique, vraiment intéressant parce que j'ai vu que dans les 4 thèmes proposés, je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les faire, mais vraiment, mais surtout le deuxième thème concernant l'espèce de radio AM ou radio à ondes courtes, UVB 76, ça m'intrigue vraiment. Mais bon, ce sera les énigmes historiques, justement.
Oui. Tout à fait. Cette semaine, on aborde le sujet des énigmes historiques. Et la première énigme, je pense que les gens qui suivent un peu l'actualité sur les médias sociaux ou sur les grands médias américains, par exemple, l'ont probablement vu passer. C'est le gouvernement, l'administration Trump qui a mis en place, on le sait depuis le début de sa nouvelle arrivée à la Maison-Blanche, il a mis en place un organisme pour déclassifier, si tu me permets l'expression, déclassifier des documents confidentiels qui ont été mis sous scellé. Et ces documents, bon, on le sait, depuis le début de l'année, là, on a publié énormément de documents sur les derniers documents qui restaient classés sur l'assassinat de John F. Kennedy. Et on a également rendu public des documents associés à l'assassinat de Robert Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King. Donc, tous ces grands dossiers qui ont alimenté énormément de controverses, souvent aussi des théories du complot. Ben, ces documents, il y a un mandat précis pour qu'éventuellement tous ces documents soient rendus publics. Le seul dossier apparemment qui semble échapper à cette loi-là, c'est le dossier Epstein. Mais
c'est ça. Mais ouais, c'est pas pareil. Hein?
Non, lui, c'est vraiment autre chose. Et parmi ces documents, donc, on apprend cette semaine que l'administration Trump a demandé de rendre publics les dossiers sur la disparition d'Amelia Earhart. On en a parlé ensemble de cette disparition. C'est l'une des énigmes historiques qui me passionne depuis mon enfance. Pour les gens qui ont tout raté les émissions des Radio X-Files où on a abordé ce sujet-là, rappelons simplement qu'Amelia Earhart était une aviatrice américaine, une véritable héroïne qui s'imposait d'ailleurs dans un monde qui était essentiellement dominé par les hommes. Et puis en 1937, elle va lancer un projet, le grand projet de ses exploits, et c'est celui de faire le tour du monde à bord d'un avion. Ça peut paraît étrange aujourd'hui de dire ça, mais il faut se rappeler qu'en 1937, l'aviation civile était débutante. Hein? Donc, il y avait des vols intérieurs qui se faisaient, des petites compagnies aériennes qui voyaient le jour. On avait des transports aériens à l'intérieur des frontières du pays. Mais on n'avait pas vraiment encore commencé les grands vols transatlantiques. Pour ça, ben, on se tournait vers les grands dirigeables, le ballon comme des ballons de style Zeppelin. Là. Il faut-il se rappeler d'ailleurs qu'en 1937 ou 38, l'explosion du ballon Hindenburg, je pense, de mémoire, c'était en mai 1938, l'explosion du ballon Hindenburg au New Jersey, qui transportait une espèce de véritable paquebot volant. Là. Donc, il y avait des balbutiements balbutiement. Et donc, Emilia Earhart, avec cet exploit de faire le tour du monde à bord d'un avion, elle et un navigateur, évidemment, elle ne le faisait pas seule. On avait un appareil, un Lockheed Electra, qui avait été spécialement modifié pour devenir un véritable réservoir de carburant volant. Et ce qu'elle voulait démontrer, c'est que non seulement c'était possible de faire le tour du monde à bord d'un avion, donc dommage pour ceux qui croient que la Terre était plate, mais et en même temps, elle voulait démontrer qu'on pouvait, que c'était réalisable de faire ça avec un avion qui était fiable. Elle est partie donc... Je résume rapidement le vol. Elle part là, lorsqu'elle quitte les États-Unis, elle quitte par la Floride. Elle va gagner l'Amérique du Sud. De l'Amérique du Sud, elle va gagner la côte africaine. Et ensuite, le nord de l'Afrique, l'Asie, les pays du Moyen-Orient. Et puis, éventuellement, son dernier vol, la dernière partie du vol, elle doit relier, là, donc, elle se trouve à ce moment-là en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une petite ville qui s'appelle Lae. Et elle doit voler vers les îles Hawaï et regagner les États-Unis. Mais le problème, c'est qu'entre La Haye et Hawaï, la distance ne peut pas se faire d'un seul coup d'aile. Il faut absolument se restaurer en carburant. Et il y a eu une petite île. On survole ce qu'on appelait à l'époque la Micronésie, donc tout un chapelet d'îlots dans le Pacifique occidental. Et on a une île, un atoll, qui s'appelle l'île de Howland, où on a aménagé une piste de fortune. Il y a un navire de la garde côtière américaine qui a été dépêché sur place également. Et donc, Amelia doit se poser sur l'île Howland, se ravitailler en carburant et ensuite gagner les îles Hawaï. Et donc, en cette journée du 2 juillet 1937, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Elle quitte La Haye et après des longues heures de vol, au moment où elle devrait voir l'île Howland, elle prend contact avec le navire qui est là, qui mouille, le navire de garde côtière, l'Itasca. Et là, elle dit, ben voilà, je ne vois pas l'île, je me semble perdu, les réserves de carburant diminuent, la température est maussade et éventuellement l'appareil va disparaître et on ne reverra jamais Emilia Earhart. On va organiser d'énormes recherches à ce moment-là pour retrouver l'aviatrice et son navigateur. Recherches qui n'aboutiront jamais. On n'a jamais rien retrouvé de la navigatrice, de l'aviatrice et de son navigateur. L'hypothèse la plus vraisemblable, qui depuis maintenant une vingtaine d'années est souvent évoquée dans la presse, c'est si je m'étais trouvé, moi, dans la position d'Amelia Earhart, si un pilote s'était trouvé dans la position d'Amelia Earhart, le choix le plus judicieux aurait été de se diriger vers un groupe d'îles qu'on appelle l'archipel des îles Phoenix. Et dans cet archipel, il y a une île, l'île de Nikumaroro, qui aurait été un bon choix, qui aurait pu permettre un amérissage près des côtes et Amelia et le navigateur auraient pu gagner l'île en attente des équipes de recherche. À ce jour, il y a quand même une dizaine d'aventures qui ont eu lieu sur l'île de Nikumaroro. Des groupes se sont rendus sur place. Ils ont passé au peigne fin la forêt. Ils ont trouvé des petits objets, mais rien qui ne soit vraiment concluant et qui permet de croire qu'Amelia Earhart est à l'origine de ces débris. Parce que même si l'île est déserte, et même si au moment où Amelia Earhart aurait pu tenter un amérissage près de l'île, l'île à ce moment-là était aussi déserte, il y a quand même eu à la fin des années 30, début des années 40, donc quelques années après le vol d'Amelia Earhart, il y a eu une tentative. Les îles étaient sous domination britannique à l'époque. Il y a eu une tentative de colonisation de l'île. On a pris des insulaires ailleurs dans les archipels et on les a amenés sur l'île de Nikumaroro. Mais le projet a été abandonné après quelques années. Mais il y a eu quand même une petite communauté qui a vécu sur l'île pendant quelques années. Donc le fait qu'on ait que sur l'île, on trouve un bout de tôle, qu'on trouve une semelle d'une chaussure, qu'on trouve une bouteille d'aspirine, ça prouve pas que c'est Amelia Earhart qui l'a amené dans l'île. Tu comprends? Donc ça peut provenir de cette occupation qui a été faite mais quand même une occupation. Et là, donc, et le mystère dont perdure, c'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation, qu'est-il advenu à Amelia Earhart? Et là, voilà que le président Trump annonce, il y a quelques jours, on va déclassifier les documents sur Amelia Earhart. J'avoue personnellement que, comme je suis cette histoire-là depuis mon enfance, j'ai un peu été étonné parce que, j'ai eu accès, je suis allé aux Archives nationales à Washington, j'ai quand même consulté les dossiers d'Amelia Earhart, et la question que je me suis posée, c'est, y a-t-il des dossiers secrets sur Amelia Earhart?
Et là, Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de plus?
Et là, ce que je constate, donc je fais mes recherches pour constater que peut-être on est en train de donner un coup d'épée dans l'eau parce que peut-être que ces documents-là n'existent pas. Et donc, Donald Trump, qui semble pas vraiment au courant de ce qui se passe aux archives nationales, lui, en fait, il lance ça comme ça. Et j'ai retrouvé la raison pourquoi. Hein, j'ai entre les mains une lettre du 9 juillet 2025. La lettre, elle est signée par Kimberly King Inns, qui est une membre du Congrès, et elle représente le Commonwealth des îles Mariannes. Donc, les îles Mariannes, on est dans le Pacifique austral, c'est un chapelet d'îles dont l'administration est en partie américaine. Pas toute, mais une partie des îles aura une administration américaine. Donc, c'est le Commonwealth américain. Et Kimberly King Inns, elle est la représentante de ce Commonwealth des îles Mariannes au Congrès américain. Et c'est elle qui a donc adressé une lettre au président Trump le 9 juillet dernier, et dans lequel elle dit, bon, il y a plusieurs trucs, elle fait un peu une nomenclature de ça, et les éléments les plus intéressants, c'est elle dit, la disparition d'Emilio Earhart, on en parle beaucoup ici, il y a une rumeur, puis effectivement, c'est une rumeur qui remonte à l'époque du vol d'Emilio Earhart, voulant que des gens auraient aperçu Amelia, son pilote, et leur appareil, un Lockheed Electra 10E, on aurait aperçu cet appareil sur l'île de Saipan, qui fait partie des îles Mariannes. Finalement, elle serait pas disparue, mais là, elle aurait été kidnappée par les Japonais. Parce qu'il faut savoir que toute cette région-là du monde, à l'époque, hein, on est juste avant, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, les îles Mariannes et les îles voisines, hein, les îles Marshall, ce sont des îles qui sont en grande partie occupées par les forces japonaises. Et on le sait, il va y avoir, durant la Deuxième Guerre mondiale, cette fameuse guerre du Pacifique. Mais déjà à ce moment-là, à partir du milieu des années 30, plusieurs de ces îles sont déjà occupées par des gens de l'armée du Soleil Levant. Là, et donc, les gens se sont dit, est-ce qu'Amelia aurait pu être capturée par les Japonais? Et là, des rumeurs ont commencé à circuler. Bon, il faut quand même le dire, cette affirmation a aussi alimenté, là, après la disparition d'Amelia Earhart, il y a des hypothèses, parce que des théories du complot, il y en a toujours eu, puis il y en avait à cette époque-là aussi. L'une des théories du complot, c'est que le vol d'Amelia Earhart était un leurre, qu'elle ne se dirigeait pas vraiment, elle se dirigeait pas vers l'île Holland, puis son objectif n'était pas de se rendre à Hawaï, mais elle était en mission par le gouvernement américain pour aller espionner, faire un survol des îles, au-dessus des îles Marshall et des îles Mariannes, pour voir quelle était l'étendue des installations japonaises qui, peu à peu, là, commençaient à occuper, là, toute cette région-là du monde. Donc, mais cette hypothèse a été clairement abandonnée parce que ça tient pas la route. Bon, il y a plusieurs éléments. Et toutes les histoires de gens qui ont raconté avoir vu l'avion d'Emilio Earhart, que ce soit à l'île Saipan, que ce soit dans d'autres îles, des îles de l'archipel des Marshall, ou dans d'autres îles des Mariannes, tout ça tombe à l'eau parce que, bon, l'appareil n'était pas équipé pour ça, puis c'était pas le... Emilio Earhart n'était pas une pilote qui aurait été expérimentée à faire ce genre de vol. Donc, les Américains avaient déjà des appareils, il y avait déjà des vols spéciaux qui auraient pu permettre de faire cet espionnage sans devoir en passer par Emilio Earhart. Et sans compter également qu'il faut savoir que le vol d'Emilio Earhart avait été en grande partie subventionné par son époux. Elle était mariée avec George Putnam, et Putnam était un éditeur très important de New York, et c'est lui qui finançait en grande partie l'expédition pour qu'éventuellement il publie les mémoires d'Emilio Earhart sur justement ce vol autour du monde. Il y avait d'autres commanditaires. Bref, l'idée, on peut comprendre, là, des hypothèses, des théories du complot, ça circule, puis que des gens aient évoqué ça, mais dans les faits, cette hypothèse-là ne tient pas la route. Alors, moi, personnellement, pour avoir fouillé les archives d'Emilio Earhart, je n'ai jamais entendu parler ou vu de documents qui soient encore aujourd'hui secrets. Il y a des documents, j'ai mis la main sur des documents qui ont été déclassifiés, j'utilise toujours cette expression-là entre guillemets, là, ont été déclassifiés dans les années 50, les années 60 concernant Amelia Earhart, notamment durant les missions de recherche, alors qu'on cherchait l'appareil quelque part autour de l'île Holland, ben c'est sûr qu'il y a eu énormément de survols d'avions et les avions ont pris des photographies des îles Mariannes et certains ont même poussé des vols vers les îles Marshall où il y avait également de l'occupation japonaise. Que des appareils de recherche utilisé par le gouvernement américain pour retrouver Emilia Earhart, ait fait des petits détours pour passer au-dessus des îles occupées par les Japonais pour prendre des photographies. Tout ça est vraisemblable et on le retrouve dans certains des documents du gouvernement qui ont été rendus publics dans les années 60, même les années 50. Mais il n'y a pas vraiment de dossier secret sur Emilia Earhart. Et on voit dans cette lettre que Kimberly King Inns adresse à l'administration Trump qu'elle ne le sait pas non plus. Hein? Elle dit à un moment donné dans la lettre, elle dit, tu sais, I have become aware that the U.S. government may steal old documents. Hein? Il peut okay. que j'entends pourrait. Dire que le gouvernement pourrait détenir des dossiers. Ouais. Mais il n'y a pas d'affirmation, là. Et elle en parle parce qu'il y a des gens qui sont aux îles Marianne, qui sont les fils ou les petits-fils de gens qui étaient là durant la Deuxième Guerre mondiale ou un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont suivi l'affaire Emilia Earhart. Et là, évidemment, toutes sortes de légendes et de rumeurs ont circulé. Mais on le voit bien à travers cette lettre-là, on ne cible pas précisément une archive en particulier. On ne sait même pas si ces archives-là existent. J'ai l'impression que Donald Trump ne le sait pas non plus.
Non.
Puis il a dit, puisque quelqu'un dit qu'il doit avoir des documents secrets, rendez public ces documents secrets, mais ces documents secrets, j'ai bien hâte de voir s'ils existent parce que moi, j'en ai pas trouvé trace. Puis je suis allé aux Archives nationales à au moins deux reprises et dans lesquelles j'ai fouillé les archives à Emilia Earhart. Je les ai d'ailleurs à la maison. C'est des centaines et des centaines de pages de documents. Mais j'ai rien trouvé là-dedans ou aucun document qui laisse présager qu'il pourrait exister d'autres filières quelque part qui soient rendues, qui soient gardées secrètes ou quoi que ce soit. Donc, j'ai l'impression qu'on a fait un gros buzz autour de ça parce que j'ai vu ça énormément circulé ces derniers jours sur la toile.
Ouais.
Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va découvrir autour de ça? Ben, j'ai l'impression qu'on découvrira rien parce que j'ai l'impression qu'on découvrira même pas de documents secrets.
C'est peut-être un pétard mouillé, comme on dit, ouais.
Oui, oui, absolument. Et si on trouve des documents, bien, comme je le dis, dans des documents qui ont déjà été rendus publics, qui sont déjà accessibles, on sait que certains, qu'à l'époque des recherches menées pour retrouver l'avion d'Emilia Earhart, il y avait une consigne auprès des équipes de recherche en disant « gardez l'œil ouvert, on sait que les Japonais sont dans la région, et si par hasard vous voyez quelque chose en lien avec une occupation japonaise, bien, faites une cartographie, un relevé de ça, prenez des photographies pour éventuellement tout ça le transmettre au département, le département de la guerre maintenant. Là,
bon. Mais si... ouais, puis si les Japonais avaient capturé, par exemple, Emilia Earhart ou quelque chose comme ça, j'imagine qu'ils auraient revendiqué.
Oui, oui, absolument. Et toutes les pistes qu'on a suivies autour de ça n'ont jamais mené nulle part. Hein. Encore récemment, je me rappelle, grosso modo, il y a peut-être 4 ou 5 ans, peut-être un petit peu plus que ça, peut-être 10 ans maintenant, il y a un documentaire qui avait été présenté à la télévision à Discovery, au canal Discovery. Discovery qui n'est plus le Discovery de mon enfance. Là. C'est un Discovery qui fait à peu près du grand n'importe quoi. Et on a fait un documentaire sur Emilia Earhart, tout ça sur la foi d'une photo qui avait été prise justement, de mémoire, je pense, c'était sur l'île de Saipan, et on voyait un quai. Écoute, faut chercher loin. On voyait un quai et au bout du quai, on voyait quelqu'un d'accroupi qui aurait pu passer pour une femme avec une coupe à la garçonne à peu près. Mais okay. Ça aurait pu être aussi un garçon, là. Hein, c'est vraiment une photo. Puis il y a un homme un peu flou qui se tient sur le bord d'un poteau qui aurait pu ressembler à Fred Noonan. Mais il pouvait ressembler aussi à Jimmy Page ou à Elvis Presley ou à Michael Jackson. Il ressemble à n'importe qui, là. Donc, et on est parti de cette photographie, puis on dit, on vient de trouver cette photo dans les archives nationales. Et certains ont fait remarquer, c'est une photo qui a été prise sur l'île de Saipan, deux personnes sur un quai qui ressemblent à Emilia Earhart et Fred Noonan. Est-ce que c'est une preuve photographique qu'ils ont bel et bien été capturés par les Japonais? Et on a un documentaire d'une heure autour de ça. Puis là, on a des intervenants, puis des gens qui se lancent dans des théories du complot, puis des hypothèses fantaisistes. Mais quand le documentaire a été diffusé, parce que tu comprends bien que la fameuse photo, elle n'a pas été présentée à la presse avant le documentaire, hein? toute la publicité de Discovery, c'était « On a mis la main sur une photo extraordinaire qui semble montrer Emilia Earhart prisonnier sur l'île de Saipan. » Donc là, évidemment, tout le monde rongeait son frein. « On va-tu la voir, cette damnée photo? » Et quand le documentaire est sorti, en quelques minutes, quelqu'un dit « Cette photo-là, là, elle a été publiée en 1935 dans un livre de table qu'on pouvait regarder, puis c'était des photos des îles. » Donc, le livre, on a même retrouvé le livre. Le livre a été publié 2 ans avant le vol d'Emilia Earhart. Puis c'est une photo qui était prise par un kidam sur un port à Saipan. C'est rien du tout, là. C'était toute cette histoire-là montée en épingle pour une photo d'un kidam publiée dans un livre en 1935 qui n'a strictement rien à voir avec Emilia Earhart. C'est donc, tu vois, c'est... Je pense pas que le Discovery de mon enfance aurait commis un impair comme celui-là. D'ailleurs, ce documentaire-là, à partir du moment où on a identifié le photographe, on a identifié la photo, on a identifié le livre, puis à l'époque, c'était un livre de photographie, tu sais, le genre livre qu'on laisse traîner sur des tables à café, qui montre toutes sortes de prises de vue des îles Mariannes, puis ça, parce que c'est quand même des endroits assez exotiques. À partir du moment où tout ça a été clairement identifié, Discovery a présenté ses excuses du bout des lèvres, et a retiré ce documentaire-là qui n'a pas été rediffusé, représenté en rediffusion à Discovery. Parce que là, bon, évidemment, le premier coup, c'était de la désinformation, mais là, si on aurait continué à multiplier les présentations en reprise, là, ça aurait été vraiment de la mésinformation, là. Bon, on l'a retiré. Mais quand même, mais cette rumeur-là circule et elle existe, mais encore une fois, j'ai l'impression que tout ça est un, comme tu l'as mentionné, c'est probablement un gros pétard. Attendons. Peut-être que. On ne sait jamais ce que Donald Trump peut nous trouver, hein. Je veux dire, il trouve toutes sortes d'affaires, Donald Trump.
Rempli de surprises.
Oui, il est toujours rempli de surprises. Donc, si tu veux, prenons une pause.
Oui, solde d'après Noël, matelas dauphins. Tous les matelas dauphins sont réduits de 50% pour 6 jours seulement. Du 26 au 31 décembre, tous les matelas et sommiers fabriqués par matelas dauphins sont offerts à 50% de rabais. Donc, tous les matelas dauphins.
Radio X. Avec DH, Jordan et Mel Trudel. Lundi au vendredi, 15h.
Radio X. Présenté par Donnacona Ford. Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford.
Salut Québec, ici Samuel Cadotte, propriétaire de Montréal Bungee. Cette année à Noël, offre un cadeau complètement malade. Le plus haut saut à l'élastique au Canada, en plein cœur du Vieux-Port de Montréal. Sors de l'ordinaire et procure-toi ton certificat cadeau sur montrealbungee.com.
Chez Sport Expert et Atmosphère, magasinez les soldes d'après Noël. Jusqu'au 6 janvier, obtenez jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection d'articles pour toute la famille. Détail en magasin. Sport Expert d'ici. Le cœur beau chaud présenté par 888casino.net. Plongez dans 888casino.net. C'est fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit uniquement. Jouez de manière responsable.
Morée. Live.
Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel live. Et Dom Dumas, lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. Les rabais fou se poursuivent. Des rabais exceptionnels sur nos thermopompes se poursuivent en décembre. Informez-vous, Multiconfort FP, le confort à prix fou tout le mois de décembre.
Les viandes PPAL, c'est bien plus qu'une boucherie. C'est une équipe de passionnés qui vous conseille et vous offre viande, volaille, poisson et fruits de mer de la meilleure qualité au meilleur prix depuis 50 ans. Les viandes PPAL, une histoire de succès. Viandalé.com.
Hey, salut! C'est encore moi, ton sommeil. Bon, là, c'est le temps des fêtes. L'équipe festive de Dormez-vous m'a demandé de vous rappeler que c'est aussi le temps de dormir. Hein? Oui, il y a des portions de dinde à digérer, il y a des pyjamas drôles à essayer, il y a des siestes à faire dans la pile de manteaux sur le lit. Le cadeau à donner, c'est moi, le sommeil. Attends de me voir emballé. Hein?
Et vous aussi serez emballé, car le solde des fêtes se prolonge. Vous pouvez encore profiter de 25% de rabais sur presque tout. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
Radio X recrute pour sa force de vente locale. T'es un développeur dans l'âme, un vrai fonceur. Que tu sois junior, intermédiaire ou même senior, on veut te rencontrer. Viens évoluer dans un milieu ultra stimulant pour la station toujours numéro 1 dans la grande région de Québec. Peu importe ton secteur d'emploi actuel, assurance, automobile, meubles, services, on veut te rencontrer. Fais-nous parvenir ton CV à cv@commercialradiox.com. cv@commercialradiox.com.
Le Carbo Show, présenté par 888casino.net. Plongé dans 888casino.net, c'est fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit uniquement. Jouer de manière responsable.
This is not a test. Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour. Merci d'avoir choisi les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Nick Lutien en compagnie de Christian Page. Et pour parler de l'actualité mystérieuse ou des trucs plus mystérieux dans ce qui est des nouvelles. Et là, j'ai fait des recherches là-dessus quand j'ai vu qu'on allait en parler. C'est UVB 76. Radio ondes courtes avec des diffusions vraiment mystérieuses, Christian.
Voilà, oui. On l'appelle d'ailleurs le buzzer. Dans le milieu des amateurs, on appelle le UVB 76 de buzzer. Bon. C'est très mystérieux. On ne sait pas ce que c'est exactement. On sait que c'est une station de radio. On l'a découvert à la fin des années 70, début des années 80. Donc, on est en pleine guerre froide. Et cette radio-là, ben, elle émet sur une longueur d'onde de 46-25 kHz et elle n'émet rien d'autre qu'une espèce de buzz qui est permanent. Et on a à peu près, là, grosso modo, des bourdonnements, là, et il y a comme une interruption. En fait, il y en a à peu près 25 interruptions à la minute où il y a comme un... Donc, il y a comme une espèce de codage qui se fait. Et on sait que cette station se trouve à Pavorovo. Et Pavorovo, ça se trouve à peu près à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou. Okay. Et on sait que la station, elle est gérée par les forces de l'armée rouge. L'armée russe, l'armée de l'Union soviétique de l'époque, devenue maintenant l'armée russe. Mais on ignore à quoi ça sert. Et là, évidemment, il y a toutes sortes de théories du complot, bien sûr, qui circulent autour de ça. Et pour donner une idée un peu aux gens qui entendent peut-être parler pour la première fois de cette affaire qui remonte à la guerre froide, le UVB 76, je vais faire entendre une émission normale de UVB 76. Donc, vous allez comprendre un peu, si vous syntonisez cette longueur d'onde, qu'est-ce que vous allez entendre?
C'est particulier, c'est cyclique comme ça.
Oui, oui. Donc, c'est pas le hasard. Donc, c'est définitivement c'est un truc qui est assez volontaire.
Ouais.
Et à l'occasion, et c'est ça qui est un peu excitant dans l'affaire, c'est là, on a une station qui émet du bourdonnement, mais de temps en temps, il y a une voix qui va faire une annonce. Et donc, elle va donner des lettres d'appellation, des mots, hein, des noms en russe, hein, parce qu'on sait que les lettres d'appellation de la station, hein, c'est l'indicatif qui a quand même changé à plusieurs reprises, mais depuis 2015, l'indicatif, c'est 2HUOZ, donc en mots russes, hein, c'est Zinia, Oliana, Olga, Zanaïda. C'est un peu comme Victor Tango, là, oui. L'alphabet là, de communication. Donc, on sait que ce sont ces mots-là. Et de temps en temps, donc, il y a une interruption. Et là, une voix en russe donne des mots et donne des chiffres, puis ça s'arrête. Et là, il y en a un, et là, évidemment, quand ça se produit, c'est tellement rarissime que c'est excitant. Et là, il y en a eu un le 8 septembre dernier, donc notre fameux UVB 76 s'est interrompu, et là, on a eu un message. Alors, on va faire entendre le message aux auditeurs. Allons-y.
Иван, Николай, Женя, Татьяна, Иван, Ник,
C'est tellement bizarre.
Bienvenue dans The Twilight Zone.
Oui.
Pardon. Et c'est pas le premier message, comme ça, il y en a occasionnellement. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi correspondent ces mots. On sait qu'il y a des mots qui sont directement liés aux lettres d'appellation de la station. Les autres mots, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire. Quant aux chiffres, par exemple, dans le cas du message qu'on entend ou qu'on a entendu le 8 septembre dernier, c'était les chiffres 38, 9, 65, 78, 58, 88, 37. Ça signifie quoi, ça? Est-ce que c'est des coordonnées d'ordre géographique?
Ouais.
Latitude, longitude? On l'ignore. Et c'est évidemment, ça lance, c'est la porte ouverte. Et parfois même dans des messages précédents qu'on a entendus au cours des années, hein, parce que, crois-le ou non, il y a toute une communauté de gens qui restent branchés 24 heures sur 24 sur UVB 76. Et on peut même aller sur YouTube, par exemple. Vous avez une transmission qui est en continu. Donc, de UVB 67, vous branchez, puis là, vous entendez le buzz, le premier buzz qu'on a fait entendre. Vous entendez ça à longueur de journée, pendant des semaines, des mois. Et de temps en temps, hop, un petit message. Et donc, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, on ne sait pas ce que c'est. Et là, évidemment, il y a toutes sortes d'hypothèses qui ont été proposées.
Ça ressemble et peut-être certains... à un genre de énigma, tu sais, une façon de communiquer peut-être.
Oui, donc, il y a... est-ce que c'est de l'espionnage? Mais si c'est de l'espionnage, à qui s'adresse le message? Et on ne le sait pas. Parfois même, c'est assez étonnant parce que dans des messages précédents, pas sur celui qu'on vient de faire entendre, mais sur d'autres messages dans les années passées, on entendait pendant le message, à quelques reprises, on entend derrière des gens qui parlent, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'un enregistrement. Il s'agit bel et bien d'un message qui est transmis avec un micro. Donc, il y a quelqu'un dans une salle de radio, d'émission, qui est là. Et puis, à un moment donné, à une heure précise, il appuie sur le communicateur, il enclenche la communication, livre le message, et puis c'est terminé. Et on entend derrière lui des gens qui parlent. Donc, c'est fait en direct. Maintenant, est-ce que c'est de l'espionnage? Mais si c'est de l'espionnage, à quoi ça sert? Et il faut quand même le dire, là, ces messages-là sont... on les suit depuis 1982, mais déjà dans les années 70, des gens avaient remarqué la présence de cette communication. Donc là, on sait que la station est au moins en activité depuis les années 70, donc en pleine guerre froide. Donc on s'est dit, bon, c'est de l'espionnage. Mais l'espionnage, on sait également que les émissions sont faites à partir d'équipements qui sont relativement archaïques, là. C'est pas de la technologie de pointe, là. C'est encore de la technologie des années 60 qui est utilisée pour cette transmission, qui est une transmission, faut-il le rappeler, une émission à ondes courtes. Donc, on se dit, bon, de l'espionnage, toujours à peu près les messages assez semblables. On sait pas trop ce que ça sert. D'autres ont prétendu que ça pourrait peut-être servir à une étude de la ionosphère. Les Américains se sont beaucoup intéressés à ça, la ionosphère. Il y a un programme, lui aussi d'ailleurs, très souvent associé aux théories du complot, qui était le projet HARP. Donc le projet HARP est une série d'antennes qui était en Alaska. Et ces séries d'antennes donc, envoyaient des émissions radio dans la ionosphère pour étudier la ionosphère. Mais la ionosphère, évidemment, c'est une couche de l'atmosphère. Elle a ses bénéfices comme toutes les couches de l'atmosphère, elle filtre des rayons du soleil ou des ondes électromagnétiques. Mais en même temps, lorsque l'on fait de la communication radio, notamment des communications radio militaires, c'est dans cette zone-là que vont être envoyées les ondes électromagnétiques. C'est là qu'elles voyagent le mieux.
Okay.
Donc, à partir du moment, et c'est d'ailleurs l'un des éléments du projet HARP était une étude environnemental, disons-le, de la ionosphère, mais en même temps, il y avait un petit côté militaire derrière ça. On voulait savoir, est-ce qu'on peut perturber des ondes électromagnétiques dans la ionosphère et ainsi perturber des communications radio qui seraient transmises entre des groupes ennemis. Donc, il y a un intérêt militaire. Et là, on s'est dit, bon, ben peut-être que les Russes font la même chose. Ils émettent un message, on ne sait pas trop c'est quoi, ils les mettent quelque part dans la ionosphère dans le but de savoir comment fonctionne la ionosphère ou si la ionosphère est toujours disponible ou on ne sait pas trop, mais on le fait. Donc, d'autres prétendent que ça pourrait être une espèce de... On a vu ça, c'est bon, ceux qui ont vu la série Lost, hein, perdu, là, les oui. gens sont sur une île. À un moment donné, ils découvrent qu'il y a comme un type qui est dans une station radio, puis comme toutes les demi-heures, ils lui ont envoyé un message. Mais il n'y a plus personne qui écoute depuis des années. Tu sais, il est là, il envoie son message parce que c'est sa job d'envoyer le message. Et là, on se pose, et là, on se dit, est-ce que, une des hypothèses qui est un peu fantaisiste, il faut le dire, mais est-ce que c'est possible qu'il y a comme deux, trois gars dans une station là, militaire. Puis là, eux autres, ils envoient ce message-là pour éviter que, quelque part, on déclenche une guerre nucléaire. Tu sais, dans le fond, le message dit « tout va bien, on est en sécurité. Donc, n'appuyez pas sur le bouton rouge. » Tu sais, c'est un peu qu'on pourrait traduire de cette manière-là. Le problème, c'est que durant les périodes d'escalade ou les périodes de désarmement importantes après différents traités entre les États-Unis et les Soviétiques, et après ça, les Russes, ça, le message n'a jamais changé. Hein? L'émission de radio a toujours été là. Et à des moments donnés, il y a eu de longues interruptions. Il y a eu la radio elle-même, là, même le buzz s'est arrêté pendant des jours, pendant des semaines, pour reprendre. À ce moment-là, si c'était le déclenchement d'une guerre nucléaire, quand l'émission radio a cessé de fonctionner, hein, le gars est allé prendre son lunch dans la station, ben à ce moment-là, il aurait dû avoir un déclenchement d'une action militaire, ce qui ne s'est jamais produit. Donc, que la station émette ou non, quoique elle émet, c'est assez rare qu'il y ait de longues interruptions, mais qu'elle émette ou non, ça ne semble pas rien changer. En tout cas, pas sur le plan militaire. Ouais. On ne voit pas d'activité militaire particulière. L'autre hypothèse, qui peut paraître un peu simpliste, mais qui ne l'est peut-être pas, c'est que les Soviétiques se sont donné une longueur d'onde qui est à eux. Donc, ils occupent le 46-25 kHz pour l'éventualité où ils en auraient besoin. Donc, tu comprends, c'est un peu... Là, si j'occupe cette place-là, hein, je fais du squatting. Oui. Je fais du squatting des ondes. Donc, ça n'a pas d'importance. J'envoie un buzz. De temps en temps, j'envoie des lettres, des mots. On ne sait pas pourquoi. Ça fait peut-être fantasmer le monde occidental. Mais l'idée principale, c'est d'occuper cette longueur d'onde de 46-25 kHz. Donc, éventuellement, s'il devait y avoir une guerre ou quoi que ce soit, un bombardement nucléaire, on pourrait utiliser cette longueur d'onde pour vraiment communiquer entre les forces russes en sachant qu'elle n'est pas occupée par personne d'autre. Elle n'a jamais été libre. Donc, depuis les années 80, si tu décidais de te partir une émission de radio en Union soviétique, en Russie, ou dans les pays limitrophes, ben, tu pourrais pas utiliser cette longueur d'onde-là parce qu'elle est déjà occupée. Donc, ça peut paraître simpliste comme hypothèse, mais c'est une hypothèse qui tient parfaitement la route. Et puis, finalement, la dernière hypothèse, parce que, bon, elle n'est jamais bien, bien loin... C'est les extraterrestres.
Bon.
Ouais, ouais.
OK, pourquoi ils ont choisi le russe?
Ouais, les extraterrestres parlent en russe. Non.
Pourquoi?
En fait, il y aurait une espèce de communication avec une civilisation d'une autre dimension ou extraterrestre, et ils utiliseraient des mots codés entre eux pour communiquer, des mots sur lesquels... Bon. Les extraterrestres ou ces intelligences pourraient être conscientes de ce que ça représente ou ce que ça signifie. Mais bon, bref, ça reste flou et ça reste très invraisemblable. On ne voit pas très bien pourquoi les extraterrestres auraient appris le russe. T'sais. Mais on sait où est la station, on sait sur quelle longueur d'onde elle émet, on sait que les gens qui parlent à l'occasion, rarissime, mais qui parlent à l'occasion, parlent le russe avec des lettres d'appellation. Mais encore aujourd'hui, en 2025, on ignore quel est le véritable rôle de UVB 76. Et c'est bien sûr la porte ouverte à toutes les spéculations.
Ben oui. Mais peut-être que c'est farfelu, mon idée, mais est-ce que l'espèce de buzz en question qui est continu pourrait transmettre une certaine information numérique? Parce que je sais que c'est farfelu, mais je sais qu'à l'époque, des modems, par exemple, c'était du bruit qui s'envoyait sur des lignes.
Oui. Ben, ta question, elle n'est pas si fantaisiste que ça. Quand on a découvert, là, après le UVB, les services de renseignement américains se sont posés exactement la même question. Mmh. Est-ce que dans ce bruit, il n'y aurait pas de l'information qui pourrait circuler? Donc, on a mis les spécialistes sur la trace de ça, essayer de voir dans la modulation s'il y avait un niveau de modulation ou des ondes qui étaient cachées dans le bruit. Et on n'a rien trouvé. Donc, ça semble vraiment être une espèce de bruit de fond, un « white noise hein. ». Mais on n'arrive pas à savoir pourquoi on fait ça. Donc là, évidemment, là, ce sont les hypothèses. Mais c'est quand même étonnant qu'on est pratiquement plus de 40 ans, voire même 50 ans après ces événements-là, depuis la découverte de la station. Et rien n'a changé. Hein. On a toujours l'impression, c'est vraiment, lorsqu'on se branche sur UVB 76, c'est vraiment un plongeon dans le passé. On se retrouve en pleine guerre froide avec des systèmes désuets qui étaient utilisés à l'époque et qui perdurent encore aujourd'hui, en 2025, avec des objectifs qui nous restent encore tout à fait inconnus. Moi, personnellement, je pense que, ça, encore une fois, je le mentionne, c'est une hypothèse qui paraît simpliste, mais je pense que l'idée d'occuper une longueur d'onde m'apparaît peut-être la solution la plus simple et peut-être la meilleure. Oui. Donc, on s'assure de garder un canal de communication toujours ouvert dans l'éventualité d'une catastrophe, quelle qu'elle soit.
Oui, puis ça pourrait, c'est ça, en temps de guerre, permettre une certaine communication.
Mais on aurait pu, oui, mais encore une fois, on se dit, avec la guerre déclenchée entre l'Union soviétique et Kiev, par exemple, on se pose la question, on se dit, bon, OK, à partir du moment où on déclenche cette guerre-là, est-ce qu'on n'aurait pas dû voir des changements ou des communications qui auraient été peut-être plus soutenues? Mais on n'a rien vu de ça. Donc, on s'est dit, bon, ben...
c'est quand même bizarre. Qui est mandaté pour aller dire
ça? Donc,
tu
dis, OK, bon, là, il y a une guerre en Ukraine. Est-ce que les Soviétiques vont échanger davantage sur leur canal spécial? Pas du tout. Il n'y a eu aucune... Entre le début de la guerre en Ukraine et aujourd'hui, on n'a pas constaté la moindre modification, soit sur le buzz lui-même ou sur la fréquence des messages qui sont envoyés. Encore une fois, on nage dans le mystère ici avec cette fameuse station radio soviétique, de l'ancienne Union soviétique, maintenant russe.
Vraiment une histoire passionnante.
Il nous reste combien de temps, là?
À peu près une dizaine de minutes.
Bon, une dizaine de minutes, ben écoute, ça me permet de passer à mon autre actualité que je voulais absolument te parler.
Oui.
Parce que c'est pour moi, je trouve que c'est une découverte. Donc, oublions UVB, là, 76, et revenons maintenant sur le plancher des vaches et dans l'histoire elle-même. et c'est un article qui vient d'être publié dans le Biblical Archaeology Review. Et cet article-là, je le trouve très intéressant parce que il nous annonce en fait que 53 personnages, puis je vais te remettre après dans le contexte, mais 53 personnages qui sont évoqués dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament, ont été confirmés. Bon, évidemment, ça peut paraître un peu absurde ce que je dis là. Tu vois, des personnages dans la Bible, on les a confirmés, mais c'est pas anodin. Et je t'explique. Hein. Donc, les scientifiques se sont penchés sur des personnages qui sont évoqués dans l'Ancien Testament, principalement dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, souvent, ces personnages sont décrits en fonction de leur rang ou de leur fonction. Hein. En telle année, le roi Jabar régnait sur tel pays. Bon, donc la Bible nous mentionne un personnage et elle nous donne son rang, son titre. Hein, c'est un roi quelconque. Et évidemment, on peut se dire que, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'Ancien Testament en particulier, je n'évoquerai pas le Nouveau Testament parce que c'est encore plus complexe, mais l'Ancien Testament, les premiers textes, même si les textes nous remontent au début de la création du monde et que les premiers textes, les principaux textes de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on pourrait appeler l'épopée Moïse, donc l'Exode, tout ça, ce sont des textes qui remontent, grosso modo, on a une tradition orale qui débute aux alentours de 1300, 1400 avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, comme on disait autrefois.
Ouais.
Donc, on a à peu près 1300 ans avant l'ère commune. Et on a cette tradition orale qui débute. Et les premiers textes, hein, la première fois où des gens vont se mettre à s'asseoir avec une plume en main en disant « OK, on va écrire l'histoire de Moïse. » Ça fait déjà 600 ans qu'on en parle. Hein. Donc, les premiers textes écrits, on suppose qu'ils ont été rédigés aux alentours de l'an 600 ou 700 avant Jésus-Christ. Ça veut donc dire qu'on avait une tradition orale qui a perduré pendant à peu près 600 ans. Donc, tu comprends que si de bouche en oreille, l'histoire a pu changer un peu. Mais bon, on a ces récits-là. Et évidemment, on pourrait se dire, comme historien, on se dit, c'est des personnages qui sont mentionnés comme ça, mais bon, les textes de la Bible, ce sont des textes qui ont été catéchisés, c'est pas des textes qui sont là pour rendre compte de l'histoire, mais plutôt de rendre compte de Dieu, de la foi en Dieu et tout le reste. Donc, les historiens se sont penchés sur des personnages qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et ils ont mené une recherche parallèle à travers de véritables écrits, de véritables hiéroglyphes, d'autres documents qui sont tout à fait étrangers et indépendants de l'Ancien Testament. Donc, et on a retrouvé dans d'autres archives 53 personnages qui sont décrits également, parce qu'on n'avait pas simplement un nom, parce que tu sais, si quelqu'un dit Jésus, on mentionne, restons dans l'Ancien Testament, Moïse. Mm-hmm. Là, on trouve une stèle qui mentionne Moïse. Mais tu dis, est-ce que c'est le même Moïse qu'on retrouve dans la Bible? Tu sais, c'est pas certain, là. Donc, ce que les historiens ont fait, c'est de retrouver des gens qui étaient mentionnés dans l'Ancien Testament. Et essayer de déterminer si dans ces autres sources indépendantes de l'Ancien Testament, ces gens-là étaient décrits avec des rangs ou des fonctions qui permettaient clairement de les identifier comme étant le même personnage qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament. Et ils ont réussi à faire cet exercice avec au moins 53 personnages. Donc, je te donne un exemple. Il y a le roi Ézéchias de Juda. Hein. Donc, on a retrouvé des documents, des inscriptions qui décrit ce personnage-là. Il est décrit notamment lors du siège de Jérusalem par l'armée assyrienne. Et donc, le personnage, il est décrit à partir de sources indépendantes. Et c'est le roi Ézéchias de Juda. C'est le nom que ces textes, hors religion, hors Bible, le mentionnent. Or, dans le livre des rois, au chapitre 18, au verset 1er, j'ai sorti ma vieille Bible.
Oui.
On peut lire « La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Azab, roi de Juda, régna. » Donc ici, on mentionne bien Ézéchias, on le mentionne bel et bien comme étant le roi de Juda, et Juda qui était une contrée, et cette contrée correspond effectivement à la Syrie. La Syrie, pas la Syrie, mais la Syrie. A-S-S-Y, la Syrie. Ouais. Donc, ça correspond exactement à cette... Donc, on voit qu'ici, que le texte de l'Ancien Testament évoque un personnage qui est mentionné dans d'autres sources historiques et qui occupait les fonctions ou les titres tels qu'on le voit dans l'Ancien Testament. Et on a pu refaire ça avec 53 personnages. Évidemment, rien de tout ça ne nous oblige à se dire « Ah, ça veut dire qu'il faut prendre le texte de l'Ancien Testament de manière littérale, au pied de la lettre. »
Oui, tout est vrai.
Oui, c'est ça. Tout devient vrai parce que les historiens ont démontré que le roi en question a déjà existé. C'est bon. Non, ce que les historiens montrent, c'est que il y a une source historique, une trame historique qui est beaucoup plus soutenue qu'on le croyait dans les écrits de l'Ancien Testament et très certainement aussi dans les écrits du Nouveau Testament. Donc, on peut dire que la trame de fond s'inspire de personnages, d'événements qui ont bel et bien eu lieu. Ça vient donner une autre dimension à des grands événements historiques. Donc, si on trouve des personnages qui ont bel et bien existé, on peut se poser des questions comme la destruction des villes de Sodome et Gomorre, la destruction de la ville de Jéricho. On a retrouvé des vestiges que l'on croit être la ville de Jéricho. Donc, est-ce que c'est le fait qu'on découvre que la trame historique, elle est plus soutenue qu'on le croyait? Bien, ça vient renforcer un peu ces fameux récits bibliques. Mais sans jamais, bien sûr, parce qu'il faut toujours se rappeler que ces récits, les récits bibliques, l'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont des textes que l'on dit catéchisés, c'est-à-dire que l'objectif des auteurs n'est pas de nous rendre compte de l'histoire avec un grand H, mais de nous rendre compte de la grandeur de Dieu, du divin, de sa présence parmi les hommes et de ses alliances. Donc, c'est surtout autour de ça que les textes gravitent. Et on se permet des raccourcis, on se permet d'inventer des parties de l'histoire, mais on voit que la trame de fond, elle est fortement inspirée d'événements ou de personnages bien réels.
C'est weird.
Ça, je trouvais ça très, oui, je trouvais ça très intéressant parce que j'aime beaucoup, moi, quand l'archéologie se met au service des grandes traditions spirituelles, religieuses, et qu'on essaie de trouver quel est le point d'ancrage entre ces éléments. Ça nous permet de voir un regard plus critique ensuite sur les documents eux-mêmes tels qu'ils ont été écrits, ouais, et tels qu'ils sont véhiculés. Bon, mais c'est sûr, il faut toujours se rappeler, hein, j'aime bien rappeler qu'on a quand même 600 ans de tradition orale entre les premiers récits qui sont rapportés et la première écriture. D'ailleurs, petite anecdote en passant, quand il y a quelques années, j'avais fait un documentaire sur Moïse. Et j'avais rencontré des historiens, des archéologues, et ils me disaient, écoute, dans le récit biblique, on nous dit que Moïse va fuir, hein, amène tous les Hébreux avec lui. Là, c'est l'exode de l'Égypte. Hein, il les libère du joug égyptien, traverse la mer Rouge, là, à Gué. Et là, ils vont errer dans le désert pendant des années, en fait pendant 40 ans, puis on parle de 200 000 Hébreux. Or, dans le désert du Sinaï, il n'y a jamais eu 200 000 Hébreux qui ont erré là pendant des décennies. Hein. Des 200 000 Hébreux, ça laisse des vestiges derrière eux. Là. Ça laisse des petits pépis puis des petits cacas.
Un peu de déchets, oui, c'est ça.
Oui, puis toutes les recherches archéologiques menées dans le désert du Sinaï montrent qu'il n'y a jamais eu d'occupation massive du Sinaï. Donc, il a pu y avoir des petits groupes, des petits clans. Moïse était peut-être un chef de clan dont l'histoire l'a rendu plus grand qu'il ne l'était en réalité. On ne peut pas le savoir. Mais l'idée, quand qu'arrive Pâques, on aime bien ça, écouter les 10 commandements, puis le Moïse qui arrive, puis qui sépare la mer Rouge, puis qui emmène les Hébreux. Mais sur le plan historique, ça, c'est de la pure fiction. Il faut quand même le dire, c'est de la pure fiction.
Bon, ça me fait un peu penser, on dit, c'est beau, les personnages ont existé. Ça me fait penser un peu comme Hollywood, avec les inspirés d'un fait vécu.
Ah, tout à fait. On pourrait dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est et de faits vécus. Ouais, mais quelle est la part du vrai versus la part de la fiction? Là, ça reste encore aux historiens, aux archéologues de le déterminer.
Très intéressant. Christian, il nous reste quoi? Une minute. Je sais que tu l'as dit en début d'émission, tu seras de passage à Québec demain. C'est complet pour la conférence, mais est-ce qu'il y en aura d'autres durant l'année?
Oui, effectivement. Donc là, on va laisser passer la période hivernale. Puis probablement aux alentours du mois de quelque chose comme mars ou avril, là, je vais préparer une nouvelle série de conférences et bien évidemment, je serai de retour à Québec pour présenter cette nouvelle conférence. Donc, c'est toujours le fun. Je commence à me demander si je ne vais pas louer le centre Vidéodrome.
Ah, ben,
à chaque fois, je suis obligé de changer de salle parce que c'est toujours complet. Fait que, bon,
mais c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais on est toujours content. Hein. C'est toujours plus agréable de tenir une conférence devant une salle qui est remplie que de faire une conférence devant une salle où tu as 20 quidames qui sont assis et qui baillent aux corneilles. Là,
oui.
Donc, ça, c'est toujours... Ça m'est arrivé. Je te rassure, Nick, au début de ma carrière, ça m'est quand même arrivé de donner quelques conférences devant des salles presque vides.
Je comprends très bien.
Mais bon, je connais un peu la panique. Là, quand tu es là, tu rentres pour ta conférence, puis tu vois trois personnes, tu te dis, coudonc, ils se sont trompés de salle.
Est-ce que je dois annuler?
Mais bon, alors un grand merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui seront là demain pour ce beau message d'encouragement et de soutenir mes activités.
Mais bon week-end, Christian, puis bon passage à Québec, bonne conférence, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Absolument. Merci à tous.
Salut.
Salut.
Bougez pas, c'est ce qui suit après ce
tour se pose dans le mythe.
Avec Pierre Couture.
Radio X. Dans le mythe.
Lundi au vendredi, 10h.
Radio X.
Le Carbo Show, présenté par 888casino.net. Plongez dans 888casino.net. C'est fait pour jouer. 19 ans et plus, jeux gratuits uniquement. Jouez de manière responsable.
Bière et Frites vous offre la moyenne poutine à 3,99 du 28 au 30 décembre. Bière et Frites vous offre aussi la bouteille de vin la moins chère au Québec, la Los Molinos à 7 $. Bière et Frites vous donne des ailes avec la caisse de Red Bull à 40,99 et finalement, pour accompagner vos poutines à 3,99, pourquoi ne pas prendre une caisse de grosse bière à 39,99, de Bud Light ou 50, bière et frites, prix imbattable, goût imbattable. 5,50 rue Marais, 44 Président Kennedy.
Capsule. Radio X.
Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le plus grand rassemblement de pourvoiries dans l'Est du Québec. Conférenciers et boutiques sur place du 15 au 18 janvier au Centre des congrès de Lévis. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe. Faites plaisir aux petits et aux grands. Rajoutez des pizzas Ludo à votre buffet des fêtes et sauvez beaucoup d'argent. 2 pizzas 9 pouces pour 12 $ chez les marchands participants. Faites vos provisions. Aliments Ludo, décongeler, cuire, servir. Attention, l'hiver peut vous surprendre. Gardez vos distances. Mais si malgré tout la route vous surprend, accrochage ou collision, rassurez-vous, il y a Car Expert HM Lévis. Assistance accident 24 heures, Car Expert HM Lévis, avoisinant l'autoroute 20, sortie Lévis-Centreville. Le Monster Spectacular est de retour au Centre Vidéotron de Québec le samedi 30 mai. Le spectacle familial par excellence mettant en vedette Monster Truck, Freestyle Motocross, BMX et bien plus. Billets en vente sur Ticketmaster.ca.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Le Space Cast.
Avec Jeff Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le Space Cast qui est avec vous jusqu'à 22h. Avant d'aller jaser avec notre prochaine invitée, avec qui j'ai très, très hâte de discuter, je veux vous parler d'une possibilité de get-together, surtout si vous êtes des amateurs de football américain.
Oui!
C'est un tailgate Radio X, forfait de fou. Ça, c'est les forfaits où, un peu comme la mer grand dans le chaperon rouge, là, notre seul but est de vous engrosser, là. C'est vraiment de vous... On dit engraisser. Engraisser, pas engrosser. On n'a pas l'intention de vous engrosser. Ça, c'est complètement illégal. On va plutôt vous engraisser. Ça, c'est un drôle. Wow! Non, c'est plus vous engraisser grâce à un billet, évidemment, pour la partie. Ça, il ne faudrait pas le manger si vous voulez rentrer à la game. Une bière offerte par Ralbock. Pointe de pizza Stratos Pizzeria. Mais tu sais, pointe de pizza Stratos, c'est format steak. Là. Vous voyez un peu ce dont je parle. Hot dog offert par Rêve Sportif. Demi-sandwich smoked meat de chez Brind. Morceaux de poulet frit d'Ixili. Bouchée sucrée d'Équilibre Traiteur. Dégustation d'alcool offerte par la distillerie Stadacone. Tout ça, évidemment, tous ces packages-là, parce que c'est bien du monde, va se faire engrosser par nous autres. Et bien, eux autres, ça va partir vite. Ça va partir très, très rapidement. Fait qu'il faut se garrocher au boutique.radiox.com. Comme je vous dis, la quantité est limitée. Si vous voulez assister à la performance du Rouge et Or contre les Redbirds. The Redbirds. De je sais pas quel endroit. De McGill.
C'est les Anglais.
Les Anglais. C'est peut-être le favorite team de Jackie Smith.
C'est probably le best team of Jackie.
C'est mon équipe préférée. Je vais être là pour le encourager. Bref, et tout ça est le samedi 30 août.
Yes! It will be all right.
All right. Hey, j'ai très, très hâte de discuter avec notre prochaine invitée qui, aujourd'hui, lors de ma préparation, puis en fait, j'ai très bien fait. J'avais commencé à lire sur cette dame-là avant. Quand tu m'as dit qu'on allait la recevoir en entrevue, j'ai commencé à lire. J'ai fait, ah, cool histoire, vraiment, là, ça va être malade. Et par la suite, j'ai vu des images de son périple. C'est une des choses les plus anxiogènes que j'ai vues au courant des dernières années.
Tu sais, on jase avec beaucoup d'aventuriers dans le Spacecast.
Ouais, on aime ça.
On a jasé avec un gars qui a traversé la Namibie en paramoteur.
Ouais.
On a jasé avec une alpiniste qui a monté les plus hauts sommets du monde.
K2, l'Everest, le chong chong bang bang chong.
Mais on a jasé avec un gars qui a traversé l'Antarctique en ski,
ouais,
tiré par un cerf-volant. Mais ça, c'était un autre game.
Ça, je regardais les images, puis j'étais mal. Pour vrai.
Ah, c'est un autre.
Il y a des moments où j'étais pas bien, pour de vrai. Notre prochaine invitée a parcouru du Canada à la France. On dirait que je me fais troller.